ici la parole à Heidegger. Pourquoi donc y a-t-il l'étang et non pas plutôt rien? Telle est la question de Leibniz. Et il y a lieu de croire que ce n'est pas une question arbitraire. Pourquoi donc y a-t-il l'étang et non pas plutôt rien? Telle est manifestement la première de toutes les questions. La première, elle ne l'est pas, bien entendu, dans l'ordre de la suite temporelle des questions. Au cours de leur développement historique à travers le temps, les individus, aussi bien que les peuples, posent beaucoup de questions. Ils recherchent, ils remuent, ils examinent quantité de choses avant de se heurter à la question « Pourquoi donc y a-t-il l'étang ?» et non pas plutôt rien. Il arrive à beaucoup de ne jamais se heurter à cette question. S'il est vrai qu'il s'agit non pas seulement d'entendre et de lire cette phrase interrogative comme simplement énoncée, mais de demander la question, c'est-à-dire de faire surgir son horizon, de la poser, de se forcer à pénétrer dans l'horizon, de se questionner. Et pourtant, chacun de nous se trouve quelques jours, peut-être même plusieurs fois, de loin en loin, effleuré par la puissance cachée de cette question, sans d'ailleurs bien concevoir ce qui lui arrive. À certains moments, de grand désespoir par exemple, lorsque les choses perdent leur consistance et que toute signification s'obscurcit, la question surgit. Peut-être ne nous a-t-elle touché qu'une fois, comme le son amorti d'une cloche qui pénètre en notre être-là et se perd de nouveau peu à peu. La question est là, dans une explosion de joie, parce qu'alors, toutes choses sont métamorphosées. Et comme pour la première fois autour de nous, au point qu'il nous serait plus facile, semble-t-il, de concevoir qu'elles ne sont pas, que de concevoir qu'elles sont, et sont dans l'état où elles sont. La question est là, dans un moment d'ennui, lorsque nous sommes également éloignés du désespoir et de l'allégresse, mais que le caractère obstinément ordinaire de l'étang fait régner une désolation dans laquelle il nous paraît indifférent que l'étang soit ou ne soit pas, ce qui fait de nouveau retentir sous une forme bien particulière la question « Pourquoi donc y a-t-il l'étang et non pas plutôt rien ?» Voilà ce que dit Heidegger. Cette question questionne sur le « il y a ». Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et non pas « Pourquoi y a-t-il quelque chose ?» l'étang. Heidegger dévoile l'importance, la luminosité du « il y a ». Alors que la métaphysique classique insistait, elle, sur le « quelque chose ». C'est là toute la métamorphose, comme dit Heidegger, la rupture inouïe de Heidegger avec la métaphysique, c'est-à-dire d'une certaine manière avec toute sa philosophie. Nous sonderons tout à l'heure les conséquences de cette rupture, l'espace qu'elle nous ouvre, mais arrêtons-nous à la rupture elle-même, elle nous conduit à la personne du philosophe Heidegger que le jeune Roger Munier était allé voir, frappé par cette nouveauté absolue de la question de Heidegger.
J'ai connu ce grand homme qui a eu dans ma vie une très grande importance et auquel je suis infiniment reconnaissant d'avoir été pour moi ce qu'il a été. Je l'ai connu dès 1949, j'avais 26 ans. Je me trouvais en Allemagne pour faire de l'allemand, simplement, au titre des relations culturelles. C'était l'occupation. Heidegger vivait à cette époque dans la zone d'occupation française. Et je me trouvais à Saint-Blasien, où j'ai appris la présence, dans l'immédiat voisinage, des philosophes que j'admirais le plus à l'époque, et dont j'avais tout de même déjà assez sérieusement étudié pas mal de textes. Alors je me suis dit, allons le voir. Quelqu'un m'a amené en voiture jusqu'au pied d'une pente à partir d'un petit village qui s'appelle Tottenauberg. Et on m'a dit, en me montrant une maisonnette très perdue au milieu des prairies, voilà, c'est là-haut. On y allait par un sentier, une sorte de petit chemin de terre, qui n'est pas le chemin de terre, je le dis tout de suite, qui a fait l'objet de la publication que l'on connaît. Mais c'était un grand détour et j'ai préféré suivre le chemin abrupt et direct des marchandises que l'on hissait à l'époque par un câble, qu'un cheval, en descendant la pente, faisait monter. C'est ainsi qu'on approvisionnait la hutte, c'est-à-dire la sorte de petite cabane maisonnette plutôt refuge de montagne qu'autre chose, où Heidegger vivait pendant les mois d'été. Il a beaucoup travaillé là. Il travaillait d'ailleurs, je le dis tout de suite parce que c'est intéressant, dans une absence totale de livres. Il travaillait dans une symbiose avec le cadre naturel qui était vraiment tout à fait remarquable, car le paysage est grandiose. On entendait, ce n'est pas du tout de la pastorale, c'était la réalité même, on entendait des clochettes, des troupeaux de vaches qui étaient dans la proximité, et le Feldberg, qui est une haute montagne de la forêt noire, se dressait un peu plus loin. Et je suis donc arrivé, j'ai frappé. C'est sa femme qui m'a ouvert. Je lui ai dit, voilà, je suis un étudiant français, j'ai une grande admiration pour le professeur Martin Heidegger, et je souhaiterais le rencontrer. Je n'avais pris aucun rendez-vous, rien. Elle m'a dit, entrez, en français. Elle était très accueillante. Et là, j'ai vu Heidegger qui était assis à sa petite table. Sa table était face à la fenêtre, il y avait une petite montre sur la paroi. Des papiers sur la table, dans un rayonnage. Quelques livres, dont en m'approchant, j'ai reconnu qu'il s'agissait, entre autres, de la critique de la raison pure de Kant, qui n'était d'ailleurs là que parce qu'il corrigeait les épreuves de la seconde édition de son livre sur Kant. Autrement dit, pas de livre. Des petits papiers sur la table où il écrivait énormément de choses qui étaient disposées d'une manière étrange. Et c'est sur l'un de ces petits papiers qu'il m'écrira deux ou trois choses que, naturellement, je lui demanderai de me préciser. Alors la conversation était difficile, je parlais mal allemand. Il s'en est vite rendu compte et il m'a dit « Mais parlez donc français, et moi je parlerai allemand ». C'est comme ça que notre première rencontre a eu lieu. J'étais très frappé par l'accueil, extrêmement chaleureux dans la réserve, de cet homme qui alliait une sorte de bienveillance et d'intelligence un petit peu campagnarde, avec dans le regard une flamme extrêmement vive de temps en temps, mais un ton de voix lent. J'avais comme l'impression que la pensée se déployait dans les mots qu'il choisissait bien, lentement.
Ob wir es einmal noch erkennen, Hölderlins Dichtung ist für uns ein Schicksal. Es wartet darauf, dass die Sterblichen ihm entsprechen.
Dire que quand il venait en France, quand François Sédier allait le chercher en voiture pour les séminaires du Thor, François Sédier m'a souvent dit que, au passage de la frontière, son visage s'illuminait. Il était heureux de venir chez nous. Il trouvait un accueil, il trouvait une compréhension très grande en France. Et inversement, quand il rentrait en Allemagne, au passage de la frontière, son expression se rembrunissait de nouveau.
Il était solitaire en Allemagne ?
Il était solitaire et il est resté jusqu'à la fin, extrêmement solitaire, infiniment plus.
Mais même d'un point de vue idéologique ?
Ah, tout à fait, essentiellement d'un point de vue idéologique.
Vous ne voulez pas dire qu'il a eu...
Il y a des professeurs, ça... Vous comprenez, ça... J'avais des rapports très, très précis et très personnels avec lui, puisque nous recevions à la maison ses petits-enfants et nous faisons un échange avec nos propres enfants. Et sa petite fille, Ulrike, nous disait qu'il y avait beaucoup de professeurs en Allemagne, des professeurs de philosophie qui ne connaissaient pas le nom de Heidegger.
Vous ne voulez quand même pas dire ce paradoxe immense que, au fond, Heidegger serait
une invention française.
Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas, si vous voulez, l'attention très grande que les Français lui ont donnée qui a assuré un passage à l'universel de la pensée de ce grand Allemand.
Et aujourd'hui en Allemagne, comment est-il reçu ?
Eh bien, je ne pense pas qu'en Allemagne aujourd'hui il soit mieux reçu qu'il n'était. Les courants dominants, qu'il s'agisse de celui de l'école de Francfort, qu'il s'agisse de la linguistique, n'est-ce pas ? Dans une lettre récente, Heidegger m'écrivait que l'unique tâche qui s'impose aujourd'hui face à la dévastation de la pensée par la dialectique, par la théorie des sciences et la linguistique, c'est de tenir présent dans la lumière de cet inapparent, dont sans doute vous parlerez beaucoup au cours de cette émission et qui est l'être, les ressources de l'esprit, d'un esprit qui n'est que très peu l'esprit du temps.